Ce matin, on va poursuivre, et nous sommes dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, mais avant de lire notre texte, j'aimerais introduire le thème et la lecture de ce matin. La question que j'aimerais vous poser est la suivante: qui est-ce qui règne sur votre vie? Celui La personne ou la chose qui règne sur votre vie, c'est probablement quelque chose ou quelqu'un qui oriente vos actions, vos pensées, quelque chose ou quelqu'un qui les contraint, ou quelque chose qui vous domine. Ça peut être de manière très diversifiée. Quelques exemples. La passion des jeux vidéo, quand quelqu'un ne peut plus se passer de passer du temps devant son ordinateur pour jouer, il est en réalité dominé par quelque chose qui lui est extérieur et qui prend le pouvoir de sa volonté. Les réseaux sociaux, on parle d'addiction aux réseaux sociaux et c'est quelque chose qui vient dominer la personne. Les addictions en général. Mais ça peut aussi être un trait de caractère. Un trait de caractère qui nous domine, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa colère, va être dominé par ce sentiment, par cette réaction. Ça peut aussi être la maladie qui vous contraint dans votre quotidien. Ou encore un autre exemple, la pauvreté. La pauvreté peut dominer une personne parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens matériels pour subvenir à vos besoins. Et nous pourrions élargir la question et dire, mais qui est-ce qui règne sur ce monde? Probablement celui qui est le plus fort. Mais qui est le plus fort? Difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas qu'une seule puissance qui domine ou qui veut dominer ce monde. Il y a les pouvoirs politiques qui gouvernent les nations pour devenir ou demeurer les plus forts en écrasant les plus faibles. Il y a aussi le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la richesse qui n'est pas à négliger. Il y a bien sûr la puissance militaire, le pouvoir des réseaux sociaux dans le sens où avant, j'ai plutôt. Merci beaucoup. Si jamais. Le but, c'est d'arriver jusqu'au bout avec la voix. Ça devrait y aller. Merci. Tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux, mais dans notre rapport personnel aux réseaux sociaux. Mais nous faisons le constat qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un réel pouvoir d'influence sur le monde, notamment sur les élections. Qui est le plus fort? Actuellement, nous pourrions dire la pandémie. Ou les catastrophes naturelles. Quels que soient ses pouvoirs, c'est-à-dire ceux qui dominent ma vie ou ceux qui dominent le monde, ils se caractérisent globalement par une orientation vers le mal. Et je pose cette autre question, est-ce qu'il y a un pouvoir sous lequel nous aimerions nous laisser dominer parce que ce pouvoir est bon? Globalement, tous les pouvoirs nous tirent vers quelque chose qui nous fait glisser du côté du mal. Et quels que soient ces pouvoirs, quelle que soit leur puissance, ils demeurent des compagnons qui nous guident et nous entraînent vers l'ultime pouvoir qui aura raison de la vie de tous les hommes, le plus grand et le plus puissant de tous les pouvoirs que nul ne peut vaincre parmi les hommes. Quel est-il? La mort. Celui qui règne, celui qui a le dernier mot sur notre vie, sur notre existence, c'est la mort. Et personne n'échappera à son pouvoir. C'est notre destinée. Avec tant de chemins qui y mènent, on peut trouver la mort à cause de la maladie, trouver la mort comme conséquence de la guerre. Trouver la mort comme conséquence de catastrophes naturelles. Trouver la mort à cause des addictions, à cause de ses crimes. Trouver la mort à cause de ce qui nous domine. Et nous sommes sur ce chemin où nous allons un jour affronter celui qui a le dernier mot sur notre vie, à savoir la mort. Et tous les efforts sont faits pour repousser au plus loin les limites de la mort. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, nous voulons vivre. Et donc, si un jour il y a quelqu'un qui pourra affronter et vaincre la mort et nous rendre immortels, cet homme-là aura fait la démonstration de son pouvoir et aura amené la preuve que c'est lui le plus grand des pouvoirs et le plus fort. Nous disons souvent que Christ règne, n'est-ce pas ? Nous l'avons encore indirectement dit ce matin. Nous disons que Christ règne aujourd'hui dans ce monde. Mais franchement, que voyons-nous de son règne et de son pouvoir dans notre monde ? Nous disons que Dieu est bon. Nous disons qu'il est grand. Nous disons qu'il est puissant. Nous disons que son règne est doux, qu'il est bienfaisant. Mais souvent, ne nous posons-nous pas la question, ou est-ce que les autres ne nous posent pas cette question ? Mais où est ce Dieu ? Où sont les indices et les traces de son règne ? Vous dites qu'il règne, mais regardez le monde dans lequel on vit, orienté vers le mal, et nous sommes tous sur cette autoroute qui nous amène vers la mort. Où est le règne de Christ ? Nous en arrivons à notre texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Souvenez-vous, c'est une épître qui est destinée à des Juifs qui seraient tentés de retourner aux pratiques de l'Ancien Testament parce qu'ils ne saisissent pas toute la portée de la personne de Jésus et de ce qu'il a fait. L'Épître aux Hébreux est une épître, une lettre, qui est à destination de ceux qui seraient tentés de faire ou de refaire les rituels de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans le faire, n'est-ce pas ? Quand nous pensons que par le faire, nous pouvons obtenir des choses de Dieu. C'est une épître qui est destinée à démontrer que notre foi en Christ a des effets tout à fait pratiques et concrets dans notre existence terrestre. Des effets pour ici et maintenant. Bien sûr, il y a des choses qui se réaliseront un jour. Mais dans notre vie avec le Seigneur, il y a déjà des choses pour ici et maintenant. Le doute, le découragement peut nous gagner dans notre marche avec le Seigneur. Le doute, le découragement et d'autres choses peuvent parfois même abîmer notre foi si nous n'avons pas une juste compréhension de qui est Christ. Et les 10 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux n'ont qu'un seul message. Christ, Christ, Christ et encore Christ. Chapitre 1, la dernière révélation, le dernier grand message de Dieu adressé à l'humanité entière, c'est Christ qui nous l'apporte. Christ, c'est Dieu lui-même. Christ qui est au-dessus de toutes les puissances, même les anges. Et même si nous pensons que ce monde est dominé par les esprits du mal, par les puissances maléfiques, le premier chapitre plante le décor. Christ est au-dessus des anges, bons ou mauvais. Christ règne sur toutes choses. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite. Il nous dit « Prenons au sérieux la personne de Christ et son message » qui a été authentifié, validé par des signes miraculeux, par ceux qui étaient porteurs de ce message, la vie de Jésus lui-même, puis les apôtres par la suite, qui ont expliqué, continué à communiquer cette bonne nouvelle avec des signes miraculeux associés. Et après avoir posé la souveraineté de Christ, l'auteur va poser une question, et nous allons la lire tout à l'heure. Oui, Christ règne, mais que voyons-nous de son règne ? aujourd'hui. Et c'est là où je vous invite à lire les versets 2 à 18 du chapitre 2 des Hébreux. Pardon, chapitre 2, les versets 5 à 18. Chapitre 2, les versets 5 à 18. Je fais la lecture dans la Bible du Semeur, c'est celle qui s'affiche, mais avant, je fais une petite pause technique. Lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans un texte déclare, ici c'est le psaume 8 qui va être cité, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Et il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. » Et il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Ou encore « Me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, réduits à l'esclavage leur vie durant, par la peur de la mort. Ce n'est évidemment pas pour porter secours aux anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Et voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Un texte qui n'est pas facile, avec beaucoup de choses qui sont ramassées en l'espace de quelques versets. Et j'aimerais vous inviter, vous aider à comprendre ce texte et à se l'approprier. Nous disons que Dieu est grand, nous disons que Dieu est puissant, qu'il contrôle toutes choses dans ce monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et cette vérité est affirmée encore ici au verset 8 que nous avons lu tout à l'heure et je vais le relire. En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Toutes choses sont soumises à Christ d'après ce texte. Toutes choses. Tout. Mais que voyons-nous du règne de Christ dans ce monde ? Pas grand-chose. Et c'est ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 8. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. La Bible ne nie pas ce constat. Elle ne conteste pas que d'autres choses sont actuellement plus visibles dans ce monde au point de nous interroger sur la réalité de ce règne de Christ. D'ailleurs, on se moque facilement de nous quand nous disons que Christ règne. Qui est d'accord pour aller défendre ce point dans le monde dans lequel on vit ? Il faut avoir un peu de courage. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous amener à considérer la preuve la plus indiscutable de cette souveraineté. D'accord, on ne voit pas forcément les signes de la souveraineté et du règne de Dieu, mais regardons quand même une chose. Et quelle est cette chose ? Et dans le texte que nous avons lu ce matin, le verset 9, c'est la pointe, c'est le sommet. C'est là où, dans cette section, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous emmener. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, l'auteur fait ici référence à la vie de Jésus. Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Quelle est la preuve irréfutable de la souveraineté et du règne de Jésus-Christ ? Quelle est-elle ? Il est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a subie. Il est mort, mais il est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur. Donc il est vivant. Et s'il est vivant alors qu'il est passé par la mort, que veut nous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Que Christ a vaincu la mort. Cette ultime ennemi auquel nous aurons tous affaire un jour. Christ l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Qui règne ? Qui a tous les pouvoirs ? Celui qui peut affronter la mort et la vaincre. Jésus est maintenant aujourd'hui au ciel, couronné de gloire. Pourquoi est-ce qu'il est couronné de gloire ? Mais à cause de cette victoire. Il est couvert d'honneur. Pourquoi ? À cause de sa résurrection. Et pour qui ou pour... Oui, pour qui l'a-t-il fait ? Verset 9. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour tous les hommes. Ce n'est pas juste une démonstration de puissance pour dire « C'est qui le plus fort ? C'est moi, je vais vous le montrer. J'ai vaincu. » Le plus grand des ennemis, à savoir la mort. Et voici, je récolte toute la gloire. Non. Pour qui l'a-t-il fait ? Il l'a fait pour nous tous. Pour comprendre ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, nous pouvons utiliser l'analogie du match de boxe. Qui monte sur le ring ? Deux adversaires. Et qui va remporter la victoire dans un match de boxe ? Le plus fort. La règle du jeu est on ne peut plus simple. Celui qui va mettre KO l'ennemi, celui qui va mettre l'ennemi à terre, et l'arbitre va compter. Est-ce que c'est jusqu'à 5 ou je ne sais plus combien, jusqu'à combien il compte, hein. Mais si l'ennemi ne s'est pas levé entre-temps, il est déclaré perdant. Et en général, on lève les bras du boxeur qui a remporté la victoire. Et la mort, c'est comme un match de boxe. Nous sommes sur le ring de la vie. Et nous nous battons contre cet ennemi qui est plus ou moins loin. Quand on est jeune, cet ennemi, il est loin, l'ennemi de la mort. Mais quand nous avançons en âge, nous réalisons que cet ennemi s'approche de plus en plus pour nous. Nous redoutons cette bataille, nous redoutons cet affrontement. Et parfois, nous pouvons esquisser les coups, retarder le coup de la mort, retarder le coup de la fatale. Mais nous savons tous qu'à un moment, cet ennemi gagnera. Nous savons tous que nous perdrons un jour ou l'autre, ce match. Et voici que Christ est monté sur le ring. Voici que Christ, nous voyant perdus par rapport à cet ennemi, lui-même monte sur le ring. Et il est allé affronter cet ennemi. Regardez les versets 14b et 15. Que nous est-il dit dans ces versets ? Ainsi, puisque c'est dit dans la deuxième partie, il l'a fait, donc sa victoire sur la mort, son match chaos sur l'ennemi de la mort, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Non seulement il a remporté le match et mis KO à jamais, plus de match nécessaire, mais il l'a aussi fait pour nous et à notre place. Et ce match, la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix, ce match, c'est, on pourrait dire, c'est le grand gala de la solidarité. Vous savez, les grands matchs de boxe souvent sont associés à un gala, parfois pour une cause. Jésus ne l'a pas fait pour sa propre gloire, mais Jésus l'a fait pour les hommes. Verset 15, pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage. J'aimerais faire deux remarques à cet endroit avant de voir les effets pour nous aujourd'hui de cette mort et de cette résurrection. La mort est une réalité matérielle et physique. Un corps qui est sans vie est un corps qui devient froid. Un corps qui change de couleur. Un corps qui se met à sentir très vite. Vaincre la mort, quand la parole de Dieu dit que Jésus est devenu vainqueur de la mort, ce n'est pas une réponse ou un concept philosophique. Pour affirmer, dominer et vaincre la mort, il faut une réponse tout aussi matérielle. Et quelle est cette réponse? Ça ne peut être que la réponse d'un corps vivant. Un corps qui a connu la mort, mais voilà, qui résiste à la mort et qui revient à la vie, parce que la vie est plus forte que la mort. Quand nous parlons de la résurrection de Christ dans la Bible, dans les évangiles, ce ne peut pas être une image. Ce ne peut pas être un symbole ou une pensée positive. Cette résurrection, elle est nécessairement matérielle, tout aussi matérielle que la mort, parce que sinon, moi, je crois en vain. Qu'est-ce qui va me garantir un jour ma propre résurrection? Qu'est-ce qui va me garantir qu'il y a une vie après la mort si cette vie n'est pas matérielle, physique? On ne peut pas opposer le monde des idées et des concepts philosophiques ou le monde des suppositions face à une réalité matérielle comme celle de la mort. La victoire sur la mort se traduit forcément par une réalité matérielle qui est celle de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Sa résurrection est attestée par plus de 500 témoins dans l'Écriture et nous avons des signes qui sont dignes de confiance. Actuellement, je vais tous les jours à Orange et je prends le train de Valence à Orange parce que la mission CIM est à Cadrousse, à quelques kilomètres de Orange. Et tous les jours, je passe devant le théâtre antique qui date de l'époque gallo-romaine. On est dans les premiers siècles de notre humanité. Je peux douter de l'existence de César, je peux douter de l'existence des empereurs. Mais quand je passe devant ce théâtre antique, j'ai un indice indiscutable de la réalité de l'existence de ces empereurs. Je ne pourrai pas vous démontrer l'existence de Dieu. Mais il y a tellement d'indices, tellement de témoignages, qu'il serait déraisonnable de ne pas croire que Dieu existe. Et pour cette raison-là, quand la Bible affirme que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, elle en apporte des indices tangibles, des indices qui ne sont pas farfelus. On a des documents écrits qui l'attestent et qui nous appellent à croire. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Oui, nous ne voyons pas encore la complète réalisation du règne et du pouvoir de Christ, mais rappelez-vous la preuve que l'auteur aux Hébreux veut nous dire. Il nous dit, on ne le voit pas encore, mais quand même, une chose, une preuve qui atteste qu'il règne. Le match de boxe a été vaincu, a été gagné. Une chose atteste ce pouvoir, sa mort et sa résurrection. Et tous ceux qui placent leur confiance en Christ, qui lui acceptent d'être soumis, qui acceptent d'être sous son pouvoir. Et qu'est-ce que c'est bon d'être soumis à Christ? Voilà un ami qui vous veut du bien. Voilà un pouvoir qui, sous lequel il est bon d'être. Parce que vous êtes sous quelqu'un qui ne va pas abuser de vous, qui ne va pas vous exploiter, mais qui va vous aimer, qui vous pardonne. D'ailleurs, on va voir les effets de cette victoire. Qu'est-ce qu'il est bon d'être soumis à celui qui partage avec nous les bénéfices de sa victoire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs effets vivifiants de sa mort. Et je vous en propose rapidement 6. Première, non seulement Christ remporte le match de boxe sur la mort et la puissance du mal, mais en plus, il nous accorde des bénéfices. Le premier de ces bénéfices, au verset 11, il nous est dit que Christ nous purifie. Il nous purifie. La victoire sur la mort anéantit le pouvoir qu'avait la mort sur notre vie à cause de notre péché. Et si la mort nous terrasse, si la mort est notre ultime ennemi, c'est parce que nos fautes, parce que notre péché nous a placés sous son pouvoir. Et nous mourons parce que nous péchons. Mais si Christ enlève en nous ce qui cause la mort, nous ne sommes plus sous son pouvoir. Si Christ enlève en nous nos fautes, notre péché, notre rébellion, tout ce que nous avons vu dans la première partie du culte et qui nécessite une armistice, si Christ nous purifie, alors la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Bien sûr, il nous arrive encore de pécher, mais ce que Christ a fait à la croix vaut pour ce qui est de avant notre conversion, mais aussi de notre marche avec Christ. Il efface toutes nos erreurs. Christ efface toutes nos erreurs. Christ efface toutes nos bêtises, celles dont nous avons le plus honte, celles que nous cachons et que nous enfouissons au plus profond de nous. Christ nous les pardonne. Et il nous purifie. Purifier, ça veut dire enlever la tache. Christ pardonne et purifie nos crimes. Nous n'avons plus à répondre de la mort. Est-ce que nous mesurons encore cette bénédiction de la purification des péchés dans notre vie ? C'est une chose d'être pardonné, n'est-ce pas ? Vous pouvez reconnaître une faute, mais porter la culpabilité, porter la souillure, porter la saleté, porter la honte de ce que vous avez fait. C'est une chose d'être pardonné, c'en est encore une autre que d'être purifié. Purifié de nos actes les plus ignobles, Jésus les efface. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté le match de boxe. Il a terrassé l'ennemi de la mort, le diable et ses œuvres. Et il peut nous purifier. Deuxième conséquence, au verset 11, ceux qui sont ainsi purifiés rejoignent l'ensemble de ceux qui sont au bénéfice de la même expérience. C'est extraordinaire. En fait, les croyants, ceux qui un jour acceptent Jésus-Christ dans leur vie, acceptent d'être mis au bénéfice de ce match de boxe que Jésus a gagné, d'être mis au bénéfice de la purification des péchés que Dieu offre, et bien ceux qui ont vécu cette même expérience rejoignent une communauté des personnes qui sont elles aussi au bénéfice de la mort du Christ, qui elles aussi ont été purifiées et délivrées de la mort, de la résurrection. Et nous intégrons ainsi une nouvelle communauté humaine, une nouvelle société, un nouveau groupe de personnes que l'Église appelle, que la parole de Dieu appelle l'Église, et que c'est cette nouvelle humanité, cette nouvelle société qui un jour va vivre éternellement dans ce monde, dans cette création renouvelée où Jésus lui-même viendra habiter parmi nous. Purifié, intégré à une nouvelle communauté. Troisième effet. L'auteur cite au verset 6 le psaume 8. Et dans le psaume 8, nous avons un psaume qui oppose la majesté de Dieu à la fragilité humaine. Il souligne la bonté de Dieu qui a donné à, à, malgré tout, à l'être humain une place glorieuse dans sa création. Mais voilà, l'homme a péché, et il est retombé de peu inférieur aux anges à cause de la chute, à cause du péché. Mais troisième bonne nouvelle dans ce texte, grâce à Christ et dans le monde à venir, l'humanité renouvelée, la communauté des croyants, va retrouver cette place glorieuse qui était la sienne et qu'elle avait perdue à cause du péché. Donc, Christ nous délivre de la mort, il nous purifie, il nous intègre dans une nouvelle communauté. Et cette nouvelle société va, en fait, à l'inverse de notre humanité qui s'enfonce dans le mal, cette nouvelle société que Jésus, que Dieu a rachetée par sa mort en Jésus-Christ, va nous amener dans une nouvelle humanité qui est à venir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'espérance à mettre dans l'humanité qui habite ce monde lorsque nous écoutons ce qui est dit de notre communauté humaine, et peut-être même encore plus qu'à d'autres époques. La COP26 nous rappelle que nous pillons la terre de ses richesses. Nous sommes incapables de nous entendre pour sauver notre planète du réchauffement climatique. Nous entendons ici ou là un discours qui dit que le monde animal, aujourd'hui, se comporte mieux que le monde humain. Y a-t-il encore un message crédible qui permettrait d'espérer une société plus juste, plus paisible, plus libre ? Est-il encore possible d'entendre une note d'espérance qui nous ferait penser ou croire qu'une nouvelle humanité va encore venir dans l'époque, dans le monde dans lequel nous vivons, où nous pourrons vivre heureux tous ensemble ? Au verset 4 et au verset 11 du texte que nous avons lu, l'auteur aux Hébreux tire toutes les conséquences de la mort et de la résurrection de Christ. Tous ceux qui placent leur confiance en Christ forment un peuple nouveau qui retrouvera, lorsque Christ reviendra, sa condition d'avant la chute. Sa condition d'avant que le mal n'entre dans ce monde. En fait, ici, nous sommes au cœur de l'espérance du message de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas seulement Dieu te pardonne et te réconcilie avec lui, mais il te propose une perspective d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle société. Pourquoi ? Parce qu'il a vaincu la mort. Quatrième élément sur site 6, à la tête de cette nouvelle communauté humaine qui est en train de se former, il y a un homme, Dieu en Jésus, qui partage notre humanité. Christ qui a été couronné de gloire, celui à qui toute chose a été soumise, celui qui a été élevé au plus haut rang à cause de sa mort et de sa résurrection, c'est lui qui est le chef de cette nouvelle société, de cette nouvelle humanité. Lui qui a mis KO la mort et qui partage avec nous sa victoire. Cela nous est dit au verset 11, dans la deuxième partie. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Christ nous appelle ses frères et sœurs. Voilà la manière dont il nous affilie à lui et dont nous sommes affiliés les uns aux autres au sein de cette nouvelle société, de cette nouvelle humanité qui va venir. Non seulement Dieu nous sauve, non seulement il nous délivre, non seulement il nous associe aux conséquences de sa victoire sur la mort, mais en plus, il fait de nous ses frères et ses sœurs. Et quel sera notre lien relationnel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre ? Nous ne serons plus mari, épouse et époux. Nous ne serons plus parents-enfants. Nous serons quoi ? Frères et sœurs. Et c'est déjà quelque chose que nous expérimentons aujourd'hui dans l'Église quand nous disons que nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est posé. C'est écrit dans le testament. C'est déposé chez le notaire. C'est pas encore tout à fait accompli. Mais ça va venir. Cinquième conséquence. Ni esclave, ni craintif. Plus peur de la mort. Plus peur de la mort. Peur dans le sens où la mort nous engloutirait définitivement. Bien que nous ayons placé notre confiance en Christ, bien que nous soyons assurés que sa victoire sur la mort sera mise à notre bénéfice, nous quitterons tous cette terre un jour. Mais pour le croyant, la mort ne sera qu'un passage qui amènera vers la vie éternelle dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous ne craignons plus la mort. Et ici se pose une question pour nous aujourd'hui qui est essentielle. Que faisons-nous de cette bonne nouvelle? Que faisons-nous de cette victoire que Christ est prêt à partager avec nous? Mais qu'il ne nous impose pas. Qu'il nous faut saisir personnellement. Et saisir personnellement cette victoire, c'est reconnaître. On nous l'a encore rappelé dans la première partie de ce culte, mais que nous sommes pécheurs, nous sommes souillés, nous sommes sales. Nous n'avons rien dans notre vie qui peut nous racheter. C'est aujourd'hui que se décide notre éternité. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux, vous allez le voir plus tard, va appuyer si aujourd'hui vous entendez ce message de la bonne nouvelle. N'endurcissez pas votre cœur. Cet ennemi, la mort, nous ne savons pas quand nous allons l'affronter. Et c'est une illusion de croire que comme ça sera probablement dans ma vieillesse, je remets à plus tard la décision capitale et importante de remettre sa vie à Christ. Sixième et dernière conséquence, c'est qu'aujourd'hui même, Jésus, parce qu'il est un homme et pleinement Dieu, et aussi parce qu'il est, c'est aussi parce qu'il est pleinement homme qu'il peut nous associer à sa victoire. En devenant homme, il est de la même pâte que nous, de la même nature que nous. Et parce qu'il est de la même nature, pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, c'est pour ça qu'il peut partager quelque chose avec nous de la nature humaine. C'est pour ça qu'il peut partager avec nous sa résurrection. Mais voilà que Dieu nous représente aussi devant Dieu comme le sacrificateur, le prêtre parfait, bienveillant et fidèle, qui a rempli toutes les conditions pour que nous soyons aujourd'hui connectés et en relation avec Dieu. Un mot de conclusion pour terminer. Souvenez-vous, quelle est la problématique de ce texte que nous avons eu ce matin ? Tout semble indiquer que Christ ne règne pas. Mais l'auteur aux Hébreux nous apporte la démonstration que nous avons dans la mort et la résurrection de Christ la preuve et les bénéfices de sa souveraineté qui se réaliseront pleinement le jour où Christ apparaîtra. Je fais une petite analogie avec une maladie. Le lymphome est un cancer du sang. Et parmi les signes extérieurs de ce cancer, il y a les os qui peuvent se casser ou des maladies de peau. Bien soigner un lymphome, ce n'est pas tant réparer l'os qui est cassé ou mettre de la crème sur la maladie de peau qui existe. Comment faut-il bien soigner un lymphome ? En s'attaquant à la racine du mal, en traitant par des médicaments ce qui se passe dans la moelle épinière. Inutile de mettre des pommades, cela peut soulager. Peut-être que parfois un plâtre a besoin d'être posé. Mais ce ne sont là des soins superficiels, un autre soin est nécessaire. Quelle est l'analogie ? Nous pourrions dire, mais où est Christ ? Où est son règne ? Et chercher à soigner uniquement les symptômes extérieurs de ce qui est visible, tout en passant à côté du cœur du problème. Et voilà que l'auteur aux Hébreux nous dit, mais les amis, ne vous trompez pas, Christ règne, je vous apporte la démonstration. Il est mort et ressuscité, là nous sommes au cœur. C'est là qu'il a vaincu le mal. Donc, ne perdons pas de vue ces réalités et ces vérités essentielles. D'ailleurs, c'est ainsi que va se poursuivre le chapitre 3. Considérons toutes ces choses. Fixons nos regards sur Christ. Il règne, la preuve. Et si nous ne connaissons pas encore Christ, Il y a là, dans ce texte, un appel à la repentance. Un appel à entrer dans cette nouvelle humanité. Un appel à se mettre sous le pouvoir et sous la puissance de celui qui est bon. Et quitter les passions qui nous dominent et qui nous tirent vers le mal et la mort. Avez-vous fait ce choix ? Ce texte nous invite à le faire. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui est puissante et qui transforme notre vie. Seigneur, tu connais la dureté de notre cœur. Et tu sais combien il est parfois difficile d'accepter de s'arracher à nos passions. Combien il est parfois difficile de se détourner du péché pour fixer nos regards sur toi, sur ta mort et ta résurrection. Oui, tu as vaincu le mal et nous voulons encore le proclamer ce matin avec l'auteur aux Hébreux. Tu as vaincu la mort et merci pour tous les bénéfices que tu nous accordes parce que tu l'as vaincu. Dans ce monde qui nous décourage, dans ce monde qui est sans espoir, quand la désespérance nous guette, quand le découragement nous touche, Père, fais-nous la grâce de nous rappeler de ce que nous avons vu ce matin. Oui, nous ne voyons pas tous les signes de ton règne, mais la preuve est là. Et donne-nous de contempler la croix qui est vide, parce que tu es mort, mais tu es aussi ressuscité. Oui, Seigneur, merci parce que tu règnes. Merci parce que toute chose t'est soumise. Et dans notre quotidien, dans notre marche avec toi, dans l'attente de ton retour, dans l'attente de ce rendez-vous avec la mort, même si nous ne la craignons plus maintenant, fais-nous la grâce de vivre de cette vie que tu donnes et de cette bonne nouvelle qui vivifie et qui transforme les vies. Au nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen.